Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Mardi 4 septembre au matin, la nouvelle prend tout le monde de coup. Jean-Pierre Pernaut, présentateur du journal de 13h de TF1 depuis 1988, quittera son poste avant Noël. Sa remplaçante, la journaliste Marie-Sophie Lacaro, prendra les rênes du populaire JT au cœur des régions dès le 4 janvier prochain. À 70 ans, l'une des personnalités préférées des Français passe ainsi le relais de son journal, le plus regardé d'Europe. Jean-Pierre Pernaut, portrait d'une icône de la France profonde, un épisode de Code Source avec Benoît d'Aragon, journaliste média au Parisien. Benoît d'Aragon, le 25 septembre 2018, Jean-Pierre Pernaut explique sur Twitter pourquoi il ne présente pas le JT depuis la veille.
Oui, ce lundi matin, tout le monde attendait Jean-Pierre Pernaut et il n'est pas là. Et ça surprend parce qu'on est le 25 septembre, il vient juste de rentrer de vacances, il était plutôt en forme. Et il dit, voilà, j'ai un cancer, je me suis fait opérer et je vais devoir me reposer. Et ça, ça a été un choc. Il a 68 ans à l'époque, il semble en pleine forme, il est là depuis longtemps, on le connaît depuis qu'on est gamin. Et tout d'un coup, il dit, je vais pas bien, j'ai un cancer, ce qui arrive à des millions de familles françaises. Mais lui, il le dit, et c'est pas si fréquent qu'un animateur télé parle de ses maladies.
Il part en convalescence pendant quelques semaines. Cette semaine, c'est un événement à l'époque.
Oui, parce qu'on se rend compte que voilà, il est fragile, qu'il est malade, ça touche les gens, parce que c'est là où on se rend compte que Jean-Pierre Pernaut est très populaire. Les Français sont attachés à lui, on le connaît depuis qu'on est gamin, ça fait une trentaine d'années qu'il est dans le poste, là, tous les jours, tous les midis. Tout le monde connaît Jean-Pierre Pernaut, et tout d'un coup, ce symbole de la France est malade et vacille.
Pour qu'on comprenne bien, il représente quoi Jean-Pierre Pernaut ?
Jean-Pierre Pernaut, il représente 30 ans d'information. J'ai regardé quand il arrivait au 13h, Jacques Chirac était Premier ministre, le président de la République c'était Mitterrand, c'était Ronald Reagan qui dirigeait les États-Unis, il y avait toujours le mur de Berlin et les Français se ruaient dans les magasins pour acheter des Minitel. Donc Jean-Pierre Pernaut, il représente toutes ces années de transition vers la France d'aujourd'hui. Il a été là dans tous les grands moments qu'a traversé la France et donc il représente ça, une énorme page, presque un tiers de siècle de la vie des Français.
Benoît d'Aragon, on va retracer avec vous l'ensemble de la carrière de Jean-Pierre Pernaut. Il naît en 1950, il grandit à Quevauvilliers, près d'Amiens, en Picardie. Que font ses parents ?
Ses parents, c'est la petite bourgeoisie de province. Son père travaille à Amiens, il est directeur d'usine, qui a été une usine familiale. Et sa mère est pharmacienne dans le village de Quevauvilliers. Il n'est pas du tout du Sérail, c'est un homme de province. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il va afficher tout au long de sa carrière, un homme du terroir, un Français, un vrai.
Et vers l'âge de 13 ans, il se passionne pour le journalisme.
C'est assez bizarre, mais il y a des grands moments d'actu qui le marquent, comme la mort de JFK ou la mort du pape Jean XXIII. À l'époque, il explique qu'il découpe tous les articles de presse sur le sujet. Il sent qu'il se passe quelque chose et c'est comme ça que naît sa vocation d'être journaliste.
Il est comment à l'école ?
Il est très mauvais élève. On a regardé, il a redoublé de nombreuses classes, il n'a pas eu son bac, il a passé 3 fois son bac, il l'a raté. Alors le bac était plus difficile à avoir à l'époque qu'aujourd'hui, bien évidemment, mais enfin quand même, c'est un cancre. Et il préfère aller au ciné, il préfère voir ses copains, il est très chahuteur, il a un fort caractère, c'est ce que disaient ses professeurs à l'époque. Et voilà, c'est pas du tout un fort anthème.
Au début des années 70, alors qu'il n'a pas le bac, il rêve de travailler au Courrier Picard et il va se présenter au concours de l'école de journalisme de Lille.
Oui, très prestigieuse école, hein, l'une des meilleures de France. Et à l'époque, ils prennent des élèves qui n'ont pas le bac. Et il est le seul de sa promotion à ne pas lire le bac. Il faut dire qu'il lit Le Monde tous les jours. Donc j'imagine qu'à l'époque, l'école sent cette fibre quand même pour l'actualité. Et donc, il va être reçu avec probablement des parcours très atypiques. Il y a des journalistes de gauche à l'époque, des journalistes plutôt à droite. Lui, clairement, il est dans cette deuxième catégorie. Il ne s'en cache pas. Il dit que mai 68 n'est pas allé jusqu'à Amiens. Il est plutôt giscardien. Il paraît qu'à l'époque, il collait des autocollants votés Giscard sur son frigidaire. Donc, il n'est pas du tout de gauche. À l'époque, vraiment, il ne cache pas. Il est de droite ou de centre-droit et il le revendique. Donc, très logiquement, il commence à travailler dans son fief, dans sa région, en Picardie. Et il va taper à la porte du bureau de Picardie de l'ORTF. Il cherche quelqu'un. Donc, il lui propose un petit poste pendant l'été. Et il fait son premier reportage le 8 août 72.
Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a 3 jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé... C'est vous qui avez trouvé Sylvain. Ah oui. Comment avez-vous vu qu'il était là ?
Et il va continuer à y travailler jusqu'à être remarqué jusqu'à Paris.
Après la fin de ses études, l'ORTF est démantelé pour laisser place à 3 nouvelles grandes chaînes. Le jeune Pernaud est licencié après seulement quelques mois. Comment ça se passe pour lui ?
Dès la création de TF1 en 75, TF1 à l'époque est une chaîne publique et il est repéré très très vite, si bien qu'on lui confie les clés du journal de 23h. Le journal de 23h à l'époque, il n'y a pas les chaînes d'information continue. C'est le journal le plus important avant d'aller se coucher. Les Français regardent ça, une petite piqûre d'actualité avant d'aller se coucher. Et il est tout de suite remarqué par tout l'état-major de TF1 qui vont lui faire très vite confiance.
En 1978, la direction de la chaîne lui propose, logiquement, donc, de présenter le journal de 13h avec Yves Mourousi.
Yves Mourousi, c'est une grande légende de la télévision française. On l'a oublié aujourd'hui, c'était la grande figure des années Giscard. Yves Mourousi, il a complètement déridé le journal télévisé. Il le présentait à l'extérieur, ce qui ne se faisait pas du tout. Il a vraiment complètement bousculé les codes. C'est une espèce d'anomalie avec un journaliste qui sortait le soir dans des soirées branchées parisiennes, donc qui n'est pas du tout en raccord à ce que peut être l'image de TF1 aujourd'hui. Et voilà, Yves Mourousi faisait un journal un peu intello, avec beaucoup de culture, des sujets très pointus. Yves Mourousi a présenté le journal seul, mais a toujours été très entouré. Il a été entouré de Michel Denisot, de Jean-Pierre Pernaut, de Marie-Laure Aubry aussi, que les téléspectateurs connaissent bien. Il aime bien s'entourer de personnes à qui passe la parole, il trouve que ça a du rythme. Et c'est vrai que Pernaut, à ce moment-là, crève l'écran.
Dans l'actualité sociale en France, beaucoup de perturbations un peu partout aujourd'hui.
Jean-Pierre Pernaut remplace Yves Mourousi, nous sommes à l'été 1980, mais à la rentrée, il est écarté de la présentation.
Lui pense que Yves Mourousi lui reprochait quelque chose, était un peu jaloux. Marie-Laure Aubry dit que non, il s'en fichait, que c'était son journal et qu'il voulait être tout seul. Yves Mourousi était tantôt seul, l'année suivante il était en duo, il aimait bien se renouveler et tous les ans changer un peu sa formule.
Dans les années qui suivent, Jean-Pierre Pernaut n'hésite pas à afficher ses convictions.
Oui, on est en 81, Mitterrand a été élu, c'était un choc pour de nombreux Français. Et Jean-Pierre Pernaut, il ne s'en cache pas qu'il n'a pas voté Mitterrand. Lui était plutôt un défenseur de Valéry Giscard d'Estaing. Et il se présente sur la liste UDF-URPR à Amiens en 83. Donc voilà, il ne cache pas ses convictions. Aujourd'hui, aucun journaliste ne dirait pour qui il vote, mais à l'époque, lui l'assume et ne se cache pas de ses idéaux politiques.
En 1988, la chaîne récemment privatisée, TF1, cherche activement à remplacer Yves Mourousi à la tête du journal.
Oui, Yves Mourousi s'est un peu enfermé dans un positionnement très pointu. Il fait des sujets culturels très pointus. Il n'est plus tellement dans l'air du temps. Et du coup, TF1, qui vient juste d'être privatisé, décide de confier son 13h à ce jeune journaliste, Jean-Pierre Pernaut. À l'époque, c'est un visage connu, mais ce n'est pas une immense star. Il va mettre du temps à devenir une star de l'info. Mais les clés lui sont données. On est au mois de février. Il ne sait pas à l'époque qu'il est parti pour presque 33 ans.
Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure.
Il présente son premier journal de 13h, seul, le 22 février. Et très vite, il met en place de nombreux changements.
Le premier changement, c'est de faire un journal proche des gens. Ça a toujours été son credo. Et son idée, c'est de parler de ce qui se passe en région, de ce qui se passe dans les villages, du marché de Noël de Strasbourg, des agriculteurs. Et donc, il va mettre en place un réseau de correspondants locaux. Il s'appuie sur la PQR, tout simplement. Il raconte souvent qu'il allait voir la rédaction. Il disait, je voudrais un sujet sur le marché de Noël de Strasbourg. Et les journalistes lui disaient, le temps qu'on y aille, le temps qu'on revienne, t'auras ton sujet demain matin ou après-demain. Et lui disait, c'est pas possible, je veux ce sujet pour 13h. Et donc, il dit, on va mettre une équipe sur place avec les dernières nouvelles d'Alsace, qui est le journal local en Alsace. Et ils seront capables de me faire le sujet le matin pour le midi. Et donc, c'est comme ça qu'il va mettre en place tout un réseau de correspondants partout en France, réseau de correspondants qu'il utilise encore aujourd'hui tous les jours.
Comment expliquer ce succès ?
Il y a une partie qui est l'actualité chaude qu'on peut voir sur les chaînes info, mais il y a quand même toute une partie presque magazine où on parle de la vie des gens qui habitent en région.
Hier, nous avons terminé ce journal avec des chants polyphoniques corses. Aujourd'hui, la musique traditionnelle bretonne.
C'est presque un magazine avec des sujets atemporels. On se moque parce que c'est souvent les mêmes qui reviennent tous les 6 mois, tous les ans. C'est parfois exactement les mêmes lancements d'année en année. Mais voilà, ce réseau-là, il n'y a que lui qui fait ça. On ne retrouve pas ça à 20h, on ne retrouve pas ça sur France Télévisions. C'est le seul à faire ça aujourd'hui.
Comment son journal est reçu à l'époque ?
Il est moqué par les journalistes du service public qui se moquent de ce journal de bouseux, hein, c'est ce qui est dit à l'époque, mais il est moqué même en interne, c'est-à-dire qu'à TF1, les gens qui travaillent pour le 20h ironisent sur Jean-Pierre Pernaut. Quand il se passe un acte politique important, là où tous les médias sont en breaking news, comme on ne disait pas encore à l'époque, lui, il ouvrait son journal sur un bureau de poste qui fermait dans un petit village du Gers. Voilà, la désertification des campagnes, aujourd'hui, c'est un sujet très important de la société. Et lui, il a senti depuis 30 ans que c'était des choses qui changeaient la vie des Français et qui créaient une défiance de l'État central.
Les années suivantes, il multiplie les opérations spéciales et les gros coups.
Quand le mur de Berlin tombe, quand il y a la catastrophe de Tchernobyl, évidemment, quand il y a les attentats du 11 septembre, évidemment, il casse complètement son journal et il consacre un journal entier.
Les flots de bière, de champagne et de larmes, c'était cette nuit historique de Berlin vécue par Pierre Thivollet.
Jean-Pierre Pernaut, il sait quand une actu à l'international va avoir une résonance dans la vie quotidienne des Français. Et donc, dans ces moments-là, évidemment, il va tout de suite partir en édition spéciale et à présenter des gros journaux qui, là, ressemblent effectivement aux journaux de 20h ou aux journaux qu'on a l'habitude de voir.
En 1997, il est sacré meilleur présentateur du journal télévisé aux 7 d'or, les Césars de la télévision. Dans les années 2000, il s'affiche aux côtés de l'ancienne Miss France, Nathalie Marquet. Le couple se marie en 2007. Et son journal est le plus regardé d'Europe à la mi-journée, jusqu'à 7,5 millions de téléspectateurs. Benoît d'Aragon, son image change à ce moment-là.
Il était un bon journaliste, un peu avec une image provinciale, fustigé par le petit milieu journalistique. Il y a des journalistes de Libération qui avaient écrit un livre qui s'appelle « La bonne soupe » où ils se moquaient vraiment beaucoup de Jean-Pierre Pernaut. Il y avait cette marionnette au guignol qui était très méchante, très sévère.
« Vraiment Jean-Pierre, je ne te comprends pas. Ton journal de 13h, il est parfait. Ton reportage sur la tartiflette des Vosges, là, Patrick, il était bien, non ?»«
Je regarde pas ces conneries, mais c'était bien. »«
Non, je voudrais faire un truc de journaliste. »
Jean-Pierre, c'est pas pour toi. Toi, ton registre, c'est plus la France, quoi. Pourquoi tu fais pas un sujet sur la feuille d'impôt ?
Et là, tout d'un coup, il devient une star avec ce mariage assez médiatique, avec une ancienne Miss France. Et puis, Michel Houellebecq, écrivain très populaire, très respecté dans le milieu de l'édition, qui écrit un livre, La carte et le territoire, dont un des personnages les plus importants, c'est Jean-Pierre Pernaut. Et il est devenu presque une icône pop, comme PPDA et Claire Chazal, ce trio magique de l'info. Il est à la hauteur d'un PPDA, il est à la hauteur d'une Claire Chazal, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils seront virés bien avant lui.
C'est quoi la formule d'un trésor de Pernaut ?
Je pense que c'est un miroir, tout simplement, des téléspectateurs. On a tous déjà vu un journal de Jean-Pierre Pernaut. Et il parle, pour tous les gens qui n'habitent pas des grandes villes, il parle de leur vie quotidienne et il se retrouve dans son journal. Et mine de rien, quand vous regardez les journaux télévisés, c'est le seul journal où il y a cet effet miroir important. C'est ça qui fait la différence. Et puis voilà, il donne son avis, il râle, comme tous les Français.
Transhumance des moutons au Mont-Lozère. Quand on les voit comme ça, tous ensemble, ça rappelle un peu les attroupements de la fête de la musique. Mais pour les vrais moutons, il n'y a pas de risque d'épidémie. Bon après-midi, à demain.
Il reprend un peu ce slogan de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Et du coup, ça, je pense que les Français qui sont des râleurs, ça leur plaît beaucoup.
Et son style est souvent critiqué. Hein. Qu'est-ce que ses détracteurs lui reprochent ?
On lui reproche son côté cocardier, parfois, et puis son côté passéiste. C'est vrai qu'il cultive un peu la nostalgie du bon vieux temps où les paysans étaient heureux dans leur petit village. Et parfois, il est complètement déconnecté des enjeux du monde actuel. On le montre du doigt souvent pour ces raisons-là.
On en revient au début de cet épisode, Benoît d'Aragon, à l'année 2018. Jean-Pierre Pernaut fête ses 30 ans à la tête du 13h. Est-ce qu'il compte y rester à ce moment-là ?
On le rencontre au moment des 30 ans et il nous dit « je m'amuse, je m'éclate, j'ai aucune raison de partir ». Voilà, on lui dit « mais vous savez, vous allez avoir 70 ans dans pas longtemps, il serait peut-être temps de raccrocher ». Il n'y pense pas du tout. Il fait des audiences exceptionnel. Il fait le double d'audience du journal de France 2. Il est vu par plus de 5 millions de personnes tous les jours. C'est absolument énorme. Il n'est pas du tout menacé et du coup, il n'envisage pas de partir.
Deux ans plus tard, le matin du mardi 15 septembre 2020, la nouvelle tombe, Jean-Pierre Pernaut va quitter le journal de 13h après 33 ans de présentation à la fin de l'année.
Et puis avant de vous quitter, je voudrais vous donner une information importante pour vous comme pour moi. Vous l'avez peut-être vu tout à l'heure sur les réseaux sociaux ou entendu à la radio. J'ai annoncé ce matin, en effet, à la rédaction de TF1 et à nos correspondants en région, ma décision d'arrêter la présentation du journal de 13h.
C'est une énorme surprise. Personne s'y attendait. Alors, ça fait 15 ans qu'on annonce le départ de Jean-Pierre Pernaut, donc tout le monde se doutait que ce jour-là arriverait. Mais sincèrement, dans ces équipes qu'on a eues au téléphone au moment de cette annonce, ils étaient très, très surpris. Rétroactivement, ils ont vu tous ces signes avant-coureurs de dire c'est vrai que ces dernières semaines, il était un petit peu irascible, il n'était pas très en forme, il parlait beaucoup de ses week-ends et un peu moins de l'actualité. Il était passé à autre chose dans sa tête. Son cancer lui a fait changer d'état d'esprit et puis le confinement aussi. Dès le confinement, Jean-Pierre Pernaut, il s'est cloîtré chez lui, il a présenté le journal de chez lui parce qu'il sait qu'il est une population à risque, il a 70 ans, il a été très malade et donc il ne veut pas se mettre en danger. Il s'enferme dans sa maison avec sa femme et ses enfants. Jean-Pierre Pernaut, il se lève à 6h du matin, il rentre chez lui à 20h, il ne profite pas du tout de sa famille dans l'année. Donc là, il y a quelque chose où il se dit « Ah ben finalement, si je lève le pied, ça se passera bien. » Il voit que les audiences avec son remplaçant marchent très bien. Donc il se dit « Je pense que c'est le moment de partir. » Il y réfléchit tout l'été. Et là, quand il rentre de vacances, il va voir les patrons de TF1 et leur dit « Je crois que c'est le moment. On va le faire. Je m'en irai à Noël. »
Finalement, est-ce qu'il a réussi sa sortie ?
Bah oui, il part au sommet de sa gloire. Tout le monde applaudit, tous ses confrères applaudissent. Et toutes ces critiques dont on parlait tout à l'heure, de confrères qui rigolaient, qui ricanaient sur la ligne éditoriale de son journal, aujourd'hui, ils reconnaissent tous unanimement qu'il a beaucoup de talent et que c'est un mec qui avait quand même compris qu'avec une ligne éditoriale un peu différente, il allait parler, il allait toucher les Français. Quand PPDA s'est fait licencier, Pernaut, ça l'a beaucoup touché parce que c'était un proche. Ça faisait 20 ans que PPDA était au journal. PPDA, on se souvient tous que ça a été un drame absolu. Il l'a vécu comme un drame absolu quand il est parti. Claire Chazal, ça a été très dur pour elle aussi. Elle s'est fait maltraiter par TF1. Et lui, il s'est dit, moi, on me virera pas. Alors, ils disent tous ça, mais ils se font tous virer. Et je pense qu'il a compris que quelque chose avait changé et qu'il fallait anticiper ce moment où on allait lui dire, maintenant, Jean-Pierre, ça suffit, merci.
Merci à Benoît d'Aragon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir, du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr.